BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H avec deux grands invités. En l'occurrence, dans un instant, c'est Guillaume Faury, qui est le président exécutif d'Airbus, qui sera avec nous. Airbus est-il en danger? La réponse dans quelques instants. Et puis ensuite, c'est Robert Ophel, le président de l'autorité des marchés financiers, qui voit une crise structurelle, hein, en l'occurrence, pour les marchés. Il nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il parle aussi des fonds activistes. Les fonds activistes, est-ce qu'il faut mieux les réguler? Mais tout de suite, on part à Toulouse, où nous attend Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous avez publié ce matin des résultats fortement dégradés suite à la crise du coronavirus. Surtout, vous avez publié une lettre que vous avez envoyée à vos salariés avec des mots extrêmement forts, Guillaume Faury. Vous avez évoqué une crise la plus grave jamais rencontrée dans l'aéronautique et vous avez dit encore, nous en sommes qu'au début. Vous avez dressé un tableau noir. Est-ce que ce tableau noir n'est pas un peu trop noirci par vous, Guillaume Faury ?
Non, j'ai pas adressé un tableau noir. J'ai partagé la réalité de la situation avec nos salariés. C'était la troisième lettre, d'ailleurs, que je leur écrivais depuis le début de la crise. Et il faut bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Toutes les compagnies aériennes dans le monde sont très largement arrêtées. Une très grande partie de la flotte mondiale est à l'arrêt. Et quand il n'y a pas de passagers qui volent, quand il n'y a pas d'avions qui circulent, et ben les compagnies aériennes, elles arrêtent de prendre livraison des avions. Or, nous vivons de la croissance ou du remplacement des avions. Et donc, une crise aussi grave au niveau mondial, toutes les régions du monde et toutes les compagnies aériennes en même temps, pour une durée aussi longue, c'est un impact absolument majeur pour nous. Et donc, ce que j'ai partagé avec nos salariés, c'est la situation sanitaire, mais aussi économique et financière de l'entreprise et les mesures qu'on va devoir prendre, qu'on a commencé à prendre pour s'adapter à cette nouvelle situation. Et donc, j'ai partagé avec eux ce qu'on est en train de faire, les risques et l'importance de se retrousser les manches, parce que, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on a beaucoup de travail devant nous.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des annulations de commandes ?
Alors, les compagnies aériennes sont dans cette situation depuis 3 mois pour la Chine, mais plutôt 1 mois et demi environ pour la plupart des compagnies du monde. Et donc, leur urgence a été de s'adapter, de trouver des solutions à très court terme. Ça prend un peu plus de temps pour elles, pour trouver les moyens financiers de traverser la crise et donc de pouvoir reconstruire un nouveau plan de livraison et un nouveau plan de production. Donc on n'est pas dans cette situation d'annulation, on est dans une situation de discussion, compagnie aérienne par compagnie aérienne, pour retrouver une nouvelle façon de continuer notre activité avec elle. Je ne dis pas que ça ne viendra pas plus tard, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de gérer les livraisons et les acomptes des clients.
Ça, c'est pas le sujet du premier trimestre, mais ça risque de devenir le sujet du deuxième trimestre. Vous avez annoncé ce matin un chiffre d'affaires en baisse de 15%, un peu plus de 10 milliards, à 10 milliards 600 millions, avec une baisse de vos résultats à une perte, en l'occurrence, de 481 millions d'euros. Ça, c'est sur le premier trimestre. Mais le second trimestre, il risque d'être encore plus violent, non, Guillaume Faury, notamment avec peut-être des annulations.
Oui, Edwige, le deuxième trimestre va être beaucoup plus dur parce que le premier trimestre a en fait encore bénéficié d'un début d'année qui était à peu près normal, oui, avant que les choses se dégradent en février et puis beaucoup plus largement en mars et sur la fin de mars. On voit un mois d'avril, mai, juin qui vont être beaucoup plus difficiles, en particulier sur les livraisons. Et il nous faut du temps pour adapter cet énorme système industriel à la nouvelle réalité dans laquelle on est. Et donc, on verra une amélioration seulement probablement à partir du troisième trimestre où nos coûts vont largement baisser. Donc oui, on s'attend à un deuxième trimestre difficile. Oui. Mais le deuxième trimestre, c'est aussi le moment où on va pouvoir, avec les compagnies aériennes, commencer à dresser le portrait du retour en vol et du retour à la normale derrière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passe en ce moment.
Il y a tout un débat un peu étonnant, j'ai envie de dire, sur est-ce qu'il faut apporter, puisque la survie d'Airbus est en jeu, est-ce qu'il faut apporter des aides d'État ? Vous avez dit, vous, patron d'Airbus, vous avez dit, on n'en a pas besoin. Ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, chez nos confrères de LCI, dit, l'État est prêt à aider massivement Airbus. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi dites-vous que vous n'avez pas besoin d'aide alors que l'État est prêt à vous apporter cette aide ?
Non, il n'y a pas de contradiction, mais il y a un petit peu de complexité. Et je vais essayer de l'expliquer. On a évidemment besoin d'aide. On a besoin d'aide de plusieurs natures. La première aide qui est très importante pour aider la filière aéronautique, pour aider Airbus, c'est que les compagnies aériennes survivent à cette situation. Et donc quand le ministre de l'économie et le gouvernement français aident Air France, indirectement, ou même presque directement, c'est toute la filière aéronautique, c'est Airbus aussi qui est aidé. Donc ça, c'est un message pour les compagnies aériennes, et là, on a effectivement besoin d'aide. On a besoin d'aide aussi sous d'autres formes. Par exemple, les agences de crédit export, qui permettent de financer des avions, viennent prendre le relais en ce moment, d'autres types de financement, et c'est un moment très important, puisque les compagnies aériennes ont besoin de trouver des nouveaux modes de financement. Et puis, on a besoin aussi d'aide sous la forme de chômage partiel, où ça a des noms différents dans d'autres pays, mais en France, c'est du chômage partiel, et qui nous permet, dans cette baisse d'activité très forte et très rapide, de trouver des moyens de s'adapter, et ça, c'est une forme d'aide. Et puis, plus généralement, on aura besoin pour la filière, pour tout un tas de fournisseurs qui sont plus faibles, qui sont rentrés moins armés que nous, d'aide pour la filière, et donc indirectement d'aide pour Airbus. Le point que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est qu'on n'a pas besoin de monter au capital d'Airbus, puisque au début de la crise, on a vu arriver le scénario qui était en train de se dérouler, et on a été sur les marchés, trouver de l'argent, et donc on s'est protégé en termes de liquidité pour pouvoir traverser cette crise. Et si cette crise est effectivement existentielle pour l'aéronautique, on s'est mis en situation d'avoir le temps de s'adapter, et effectivement, cette crise est très dangereuse si on ne prend pas les bonnes mesures.
D'accord, mais c'est juste pour être clair, Guillaume Faury, lorsque le ministre dit « je suis prêt à aider »,
partager l'information pour que nous prenions effectivement les bonnes mesures.
Lorsque le ministre dit « je suis prêt à aider totalement et massivement Airbus », c'est pas la filière, Airbus, est-ce que là vous lui dites « non, pour l'instant, c'est pas la peine ». Grosso modo, c'est ça votre message aujourd'hui.
Mon message, c'est que nous avons pris notre destin en main. Ouais. En termes de liquidité, qui est un des enjeux très importants pour traverser une crise comme celle-là, on s'est aidé nous-mêmes, on s'est organisé pour pouvoir traverser la crise. Mais il y a beaucoup d'autres domaines où on a besoin de l'aide des États, nous, Airbus et la filière. Et je pense que ça a été très bien compris. Donc il n'y a pas de contradiction, mais il y a cette petite complexité à expliquer.
D'accord, ok. Justement, sur les mesures de restructuration éventuelle, le chômage partiel, vous avez déjà dit que vous alliez peut-être mettre au chômage partiel des dizaines de milliers de salariés en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en France? Vous avez réduit votre cadence de production d'un tiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment Airbus va fonctionner dans les trois prochains mois?
Oui, alors il y a eu plusieurs séquences, effectivement, dans le déroulement de cette crise. La première séquence a été les difficultés de continuer à fonctionner à cause des confinements et des blocages de circulation. Ça a été une période très difficile. On s'est réadapté dans les usines pour apprendre à travailler avec un nouvel environnement, avec un risque supplémentaire qui est celui du coronavirus. Ça a été beaucoup de travail. Aujourd'hui, on est en reprise d'activité, mais on est maintenant frappé par la baisse de demande des compagnies aériennes. On est dans une phase où on essaye de comprendre quelle va être la future demande pour trouver le bon réglage. On a fait une première adaptation très importante, puisqu'on a réduit d'environ un tiers notre production. Et ça, ça va tenir pendant probablement 2 ou 3 mois. Et ensuite, on fera des ajustements plus fins. Mais ça donne un ordre de grandeur de la gravité de la crise qui nous touche. Et puis derrière, il faut qu'on comprenne le retour, j'allais dire, à la normale, ou en tout cas la remontée en puissance progressive du trafic aérien et des livraisons d'avions, qui va définir le scénario que j'appelle plus moyen terme, long terme, et qui nous dira quelle est la profondeur de l'adaptation long terme qu'on va devoir faire sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise. Mais on veut vraiment avoir évalué le mieux possible, avoir le plus d'informations pour pouvoir faire ça de façon appropriée. Il est quand même à peu près certain aujourd'hui, et c'était un des objets de ce que j'ai voulu partager avec nos employés, qu'il y aura un impact moyen terme, long terme, qui va être significatif.
Ouais. Mais pour l'instant, vous n'envisagez pas une réduction de la production supplémentaire. Vous restez à peu près à un tiers.
Ce qu'on a fait aujourd'hui, le à peu près moins un tiers, c'est la meilleure évaluation qu'on peut faire avec les données dont on dispose. On va faire de l'ajustement. On en faisait déjà avant, des ajustements réguliers. On va en faire quand on aura un peu mieux compris ce qui va se passer derrière. Je pense que le plus gros ajustement a été fait. Après, on aura des réglages qui seront probablement un peu plus petits. Mais on retombe dans quelque chose qui est plus traditionnel.
Est-ce qu'il y aura des réductions de coûts? Forcément, lorsqu'on voit les chiffres que vous avez affichés ce matin, lorsqu'on voit les perspectives que vous dressez, même si elles restent encore floues, parce que comme vous dites, j'aime bien cette expression, il faut que je comprenne ce que va devenir le secteur aérien à moyen et long terme. Est-ce qu'il faudra des réductions de coûts chez Airbus?
Elles sont en train d'être analyser, étudier. On est en train de les faire en ce moment. On ne peut pas perdre un tiers de son activité, voire légèrement plus quand on regarde les revenus qu'on va avoir sur les trimestres qui viennent en fonction des livraisons qu'on va vraiment avoir. Mais en termes de production, c'est un tiers. On ne peut pas perdre un tiers de son activité et continuer à avoir le même niveau de coûts. Ça ne marche pas du tout dans des activités industrielles comme les nôtres. Donc on est en train de baisser tous nos coûts, les coûts qui sont liés à la production, qui sont la partie la plus importante. C'est, j'allais dire, presque la partie la plus facile pour nous, mais qui devient un problème pour notre chaîne de fournisseurs avec laquelle on travaille très étroitement, mais aussi tous nos coûts indirects, toutes les natures de coûts qui font qu'il faut qu'on retrouve un équilibre quelque part dans l'année pour pouvoir rentrer dans 2021 en équilibre et pouvoir recommencer à regarder l'avenir avec plus de sérénité. En ce moment, on est dans l'année d'adaptation.
Est-ce que adaptation, année un peu de crash du secteur aérien, est-ce que c'est le mot que vous utiliseriez dans votre monde d'après, Guillaume Faury ?
Non, vous savez, dans l'aviation, le terme de crash, c'est un terme qu'on n'aime pas et on travaille très très fort pour que ça n'arrive jamais quand on parle des avions, donc je n'utiliserai pas ce terme-là, mais c'est une crise sans précédent. C'est vraiment une crise à une échelle qu'on n'avait pas imaginée, avoir toutes les régions du monde, toutes les compagnies aériennes, tout le monde au sol en même temps, c'est vraiment quelque chose de sans précédent et pour lequel personne n'était vraiment armé. Donc on apprend en marchant, on invente, on trouve les solutions et on trouve d'ailleurs un écosystème extrêmement déterminé à trouver les solutions ensemble. Et je suis très très fier d'ailleurs de la filière et de nos salariés et de nos fournisseurs, de nos partenaires qui trouvent au quotidien les solutions pour s'adapter aussi rapidement à une crise aussi dure. Et on va y arriver.
Est-ce que les délais de paiement, vous les avez raccourcis pour vos sous-traitants qui sont dans des grandes difficultés ?
Alors, ils vont être dans des grandes difficultés liées à la baisse d'activité. Mais les délais de paiement, on les respecte, on va continuer à les respecter. C'est d'ailleurs pour ça que pour eux, la vague va arriver un peu plus tard, puisqu'en fait, ils continuent à honorer les commandes qu'on avait fait précédemment. Donc, ils continuent à nous livrer. On va continuer à les payer quelque part jusqu'au mois de mai-juin, alors qu'on a fait nos baisses de cadence de production déjà il y a un mois. Et puis, la difficulté pour eux va vraiment être dans le troisième et le quatrième trimestre, alors que nous, la difficulté est clairement dès le deuxième trimestre, un petit peu au premier, beaucoup au deuxième trimestre. Et donc, on va travailler ensemble. On a organisé la filière en France, en Allemagne. En France, ça s'appelle le GIFAS. On a un coordinateur pour fédérer l'ensemble des forces et être capable de se confronter à tout ça, tous ensemble.
Oui. Vous êtes très inquiet, Guillaume Faury ?
L'inquiétude n'écarte pas le danger. Non, je suis beaucoup plus déterminé en essayant de regarder les choses en face, concentré. On est au travail. D'ailleurs, il faut que tout le monde se remette au travail parce qu'en fait, on a 10 fois plus de travail que d'habitude à se réadapter à la nouvelle situation. Donc voilà, il faut absolument apprendre à vivre avec le virus et se mettre au boulot, se retrousser les manches, comme je disais tout à l'heure, pour trouver des solutions. Il y a beaucoup, beaucoup plus de problèmes que d'habitude. Donc il y a plus de solutions à trouver, mais on va y arriver.
Masque obligatoire chez Airbus ? Dans les usines ?
Alors, vous savez, ça a été un sujet très évolutif, donc je me garderai bien de faire des commentaires généraux. Ce qui est sûr, c'est que la crise a commencé chez nous en Chine. Et en Chine, très rapidement, on est arrivé à la décision que le masque pour tout le monde était finalement beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Je pense qu'on est en train d'y arriver. Chez Airbus, on n'est pas au masque pour tout le monde, mais on est au masque de plus en plus. On pense que c'est très important. Les masques chez nous, c'est quelque chose qu'on utilise déjà assez largement parce qu'on a des activités industrielles de type peinture ou d'activités chimiques où les gens portent des masques. Et donc, ça va devenir quelque chose qu'on va utiliser beaucoup plus largement et probablement pendant longtemps. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut qu'on fasse dans la population pour pouvoir retrouver une vie sociale, retrouver une vie économique. Et le masque, je pense, me semble-t-il, je ne suis pas un expert dans
c'est
le domaine, mais va être un outil très important.
Merci beaucoup Guillaume Faury d'avoir été avec nous en direct de Toulouse. Guillaume Faury, le président exécutif donc du groupe Airbus, avec quand même, on tient la barre, avec un deuxième trimestre qui va s'annoncer difficile, mais plutôt un troisième et un quatrième trimestre qui devrait être meilleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on part l'autorité des marchés des financiers. On nous attend Robert Ophèle. Là aussi, beaucoup de questions sur la politique de dividendes, sur les fonds activistes et puis sur les changements structurels des marchés financiers avec cette crise.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est donc Robert Ophèle, le président de l'Autorité des marchés financiers. Merci d'être avec nous, Robert Ophèle. Beaucoup de questions. Vous avez remis votre rapport annuel au président dans un contexte évidemment très particulier. Et dans la lettre que vous résumez un peu ce qui s'est passé, vous dites, c'est sûr que depuis 3 mois, tout a changé au sein de l'Autorité des marchés financiers, de notre métier. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette crise, elle est en train de changer structurellement le fonctionnement des marchés financiers, Robert Ophèle?
Oui et non. Il est clair que les marchés fonctionnent aujourd'hui dans un environnement totalement inédit. Et en particulier, on a commencé à s'habituer à pouvoir travailler de manière relativement satisfaisante, j'insiste sur le terme relativement, dans des configurations de confinement. Et donc, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte à l'avenir. Je pourrais y revenir à la fois pour les traders, ceux qui font les opérations, mais aussi ce que l'on voit aujourd'hui, parce que le marché financier, c'est un ensemble d'acteurs, également pour les assemblées générales des émetteurs qui sont en train de se tenir actuellement à huis clos. Un des éléments que nous constatons aujourd'hui, c'est le développement très fort de l'endettement. L'endettement bancaire, mais aussi endettement de marché, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, je crois, dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent, rééquilibrer en fonction des fonds propres. Donc ça, c'est un des challenges qui est devant nous.
Rééquilibrer, qu'est-ce que vous entendez par rééquilibrer? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, tout ce qui est IPO a complètement disparu, mais là, vous avez raison, les émissions de dettes, elles se multiplient. Donc, qu'appelez-vous précisément rééquilibrer?
Rééquilibrer, c'est retrouver des émissions de fonds d'actions, que ce soit des IPO ou que ce soit des émissions d'actions par des gens qui sont déjà cotés.
Oui, mais
déjà
enfin, cotés. Vous imaginez bien que faire une IPO en ce moment, lorsqu'on voyait le niveau de cours, vous vous dites là quand même, c'est paraît difficile.
C'est un problème d'offre, de demande et de besoin. Financer des pertes par de l'endettement, ça a rapidement des limites. Ouais. Et donc, il faut rééquilibrer les choses. Et il peut y avoir des cours qui sont des cours d'entrée pour un certain nombre d'investisseurs, d'ailleurs particuliers éventuellement aussi. Ce besoin de rééquilibrer les comptes, eh bien, il faudra le mettre en œuvre. Même si on n'anticipe rien dans les jours qui viennent, moi je considère que, en particulier sur la base des arrêtés semestriels de fin juin qui seront faits par les entreprises, nous pourrons sur cette base-là ouvrir peut-être une page beaucoup plus fructueuse en matière d'émissions d'actions, IPO, ou émissions par des gens déjà cotés.
Alors justement, Robert Ophèle, vous y faites allusion. Là, c'est sûr, donc la fin du deuxième trimestre, vous attendez pour faire un bilan sur ce point-là. Là, on a, et du reste, vous avez entendu Guillaume Faury, le président d'Airbus, mais demain, ça sera Stéphane Richard, le président d'Orange. Hier, c'était Pierre-André Tchinda. Bref, il y a tous les résultats trimestriels qui tombent en ce moment avec des perspectives, je dirais, qu'ils sont flous, forcément, parce qu'ils vous disent tous, on est incapable de faire des prévisions. Est-ce que sur l'information des entreprises, vous trouvez qu'elle est satisfaisante pour le président de l'Autorité des marchés financiers?
Chacun fait ce qu'il peut. C'est quand il y a des incertitudes, il faut dire j'ai des incertitudes et faire un certain nombre de scénarios. Mais il faut pas raconter une histoire qui n'est pas de fondement ou des certitudes, de fausses certitudes. Je mentionnais tout à l'heure les arrêtés semestriels parce que les arrêtés trimestriels, je rappelle, ne sont pas obligatoires. Oui. et seule une petite partie des entreprises en font. Alors que l'arrêté semestriel, lui, il est obligatoire. Oui. Et les diligences qui sont faites, en particulier avec les commissaires aux comptes, sur ces arrêtés, sont beaucoup plus étendues. Et en plus, oui, autant aujourd'hui, sur des arrêtés de fin mars, on comprend très bien que les incertitudes restent encore très fortes. Autant sur l'arrêté de fin juin, une partie d'entre elles auront été levées. Et en particulier, ce qui est assez intéressant, c'est la possibilité qu'on aura à ce moment-là d'avoir des scénarios beaucoup plus précis, même si on reste là en termes de scénarios.
En résumé, ça veut dire que vous serez beaucoup plus vigilant sur la publication des comptes du deuxième trimestre, donc sur le premier semestre, qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est un message que vous envoyez.
Oui. D'accord. Oui, je crois que c'est correspond à la réalité de ce que les émetteurs peuvent faire. Ouais. Et vraiment, on est en communication, en relation individuelle avec tous les émetteurs de la cote, hein, pour voir avec eux quels éléments ils peuvent communiquer et au mieux. Et ça, vraiment, ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises. Il n'y a pas de règle générale.
D'accord. Robert Hoffel, un point très important, vous avez vu, évidemment, il y a beaucoup de petits épargnants, en fait, qui sont allés à la bourse. C'est peut-être le confinement, c'est une occupation, qui ont retrouvé le chemin de la Bourse de Paris. Est-ce que la protection des épargnants, aujourd'hui, est suffisante? Et est-ce que vous confirmez, on dit qu'il y a 150 000 particuliers qui seraient allés de retour en bourse. Est-ce que vous dites, attention, il faut protéger? Parce que, et je vous cite, il y a une professionnalisation des escrocs.
La professionnalisation des escrocs, c'est souvent sur des placements alternatifs, hein, qui sont de pures arnaques. Hein, faut être très clair. Sur les marchés réglementés, hein, qui sont ceux auxquels ceux qu'on regarde là, avec les 150 000 nouvelles personnes individuelles, hein, qui seraient venues au mois de mars. C'est certes lié en partie au confinement, hein, mais c'est aussi une population un tout petit peu différente. Ce sont des gens plus jeunes, ce sont probablement d'ailleurs des gens qui investissent moins, mais qui font un premier pas. Et nous rappelons toujours que évidemment la clé, c'est la diversification des risques. Et pas mettre sur un seul valeur. Et puis étaler ses acquisitions. Et c'est plutôt réjouissant d'avoir vu ces personnes arriver à un moment, nous le verrons dans l'avenir, mais les cours étaient plutôt bas.
Ils
ne sont pas rentrés au plus haut. Oui. Alors après, on verra. Hein,
Sur la politique de dividendes, le fait que y a beaucoup d'annulations de dividendes sur l'année 2019, hein, sur le versement qui aurait dû avoir lieu maintenant, mais sur le versement 2019, est-ce que vous comprenez, c'est une bonne chose, ou vous dites justement, attention, il y a des actionnaires individuels, tout le monde ne s'appelle pas BlackRock ou la Caisse des dépôts?
Alors, c'est tout à fait exact. Il y a un certain nombre d'investisseurs individuels qui attendaient ces dividendes. Parce qu'ils, pour eux, c'est un revenu. C'est un revenu possible. Cela étant, un résultat qu'on ne distribue pas, ce n'est pas un résultat perdu. Je me permets d'attirer l'attention sur ce point-là. Ce n'est pas un résultat perdu. C'est un résultat qui est mis en report à nouveau, qui permet, dans certains cas, de passer mieux la crise et de rebondir et de faire éventuellement les investissements nécessaires aux évolutions que nécessite le nouveau contexte. Et puis, éventuellement, c'est un résultat qui pourra être distribué une année ultérieure.
Voilà. C'est un point important. Alors, il nous reste à peine 2 minutes, hein, donc c'est pour ça que je vais vite, Robert Hoffel. Un point important, surtout qu'il y a une bagarre absolument spectaculaire autour du groupe Lagardère, où il y a un fonds activiste, Amber. D'abord, et là, vous avez fait des propositions justement sur les fonds activistes. Juste sur le groupe Lagardère, est-ce que j'imagine que vous surveillez ça de très très près comme le lait sur le feu? Un commentaire, Robert Hoffel?
Je vous le confirme, nous sommes en relation très très étroite avec les différentes parties prenantes. Il est clair que le confinement et le fait que l'Assemblée générale se tienne à huis clos est un facteur de complexité supplémentaire, hein, dans ce dossier déjà très très compliqué. Moi, j'observe que les seuils qui ont été franchis ont fait l'objet de déclarations et ont fait l'objet aussi de déclarations d'intention en temps et en heure. Et donc, maintenant, c'est au marché de parler aussi, dans une certaine mesure, par rapport à cette situation très, très délicate qu'on regarde, je vous le confirme, de très près.
Est-ce que vous êtes préoccupé par la manière dont cet AG va se dérouler ?
Et nous allons surveiller, nous allons regarder ça, et nous avons après contact avec la société vérifié qu'ils avaient pris des mesures pour assurer au mieux la tenue de cette assemblée en période de confinement. Et ils ont fait, à ma connaissance, le nécessaire pour que ça se passe bien. Je crois que c'est au début de semaine prochaine. Nous serons très attentifs.
Ok. Est-ce que vous avez eu d'autres déclarations de seuil? La part de Vivendi, du groupe de Marc Ladrin de la Charrière ou d'autres?
Il y a une seule déclaration qui a été faite, hein, qui est à vous savez que le seuil de déclaration légale, c'est 5%. Ensuite, à 10%, on fait une déclaration d'intention. Ça a été fait. Vous observerez que dans le rapport sur l'activisme actionnarial que l'on a rendu public hier, nos propositions, on suggère de passer de 5 à 3% pour ces déclarations de seuil légaux, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de grands pays européens aujourd'hui, qui ont un seuil plus bas que nous.
Voilà, comme ça. Et vous avez, si oui, non, est-ce que les ventes à découvert sont encore suspendues sur le marché financier de Paris?
Elles le sont jusqu'au 18. Elles le sont jusqu'au 18 mai.
Oui.
Et nous aurons à examiner à ce moment-là si on continue ou pas. Nous le ferons au dernier moment parce que il faut tenir compte de tous les éléments de marché. La situation actuelle d'interdiction des ventes à découvert n'est pas une situation normale, et donc il faut pouvoir la lever dès que les conditions seront réunies pour que le marché fonctionne avec cette composante-là.
Merci beaucoup Robert Hoffel, rendez-vous est pris, hein. Vous reviendrez nous voir justement juste avant le 18 mai quand vous aurez pris votre décision, parce que ça c'est un point important. Merci d'avoir été avec nous, le président de l'autorité des marchés financiers. Voilà, c'est la fin de l'orage, bientôt la rediffusion. Nous on se retrouve en direct demain à 8h15, je reçois Stéphane Richard, le patron d'Orange, et puis bien sûr l'orage 12h, 13h, bonne journée.